prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Étude biblique sur le livre de l'Apocalypse. 13e partie, la moisson et la vendange.
Alors nous allons faire l'étude du chapitre 14 et du chapitre 15 et vous dire en introduction que nous sommes vraiment maintenant au cœur de la lutte finale qui est engagée depuis le chapitre 11 et qui va se poursuivre tout au long de notre étude. Mais particulièrement, eh bien, les choses ont été marquées à travers le chapitre 11, le chapitre 12, 13, 14, et nous verrons que tout cela va prendre des proportions. Et je voudrais simplement faire un rappel pour mémoire. Le chapitre 11, il était question, si vous en souvenez, des deux témoins qui sont mis à mort, symbole de la persécution des derniers temps, des derniers jours. Le chapitre 12, nous avions, pris en considération les douleurs de l'enfantement d'un monde nouveau et la bataille dans le ciel entre les anges de Dieu et puis les armées de l'ennemi, de l'adversaire de Satan. Le chapitre 13, celui que nous avions vu donc au mois de juillet, il était question, si vous en souvenez, de la trinité diabolique composée du diable, de l'antéchrist et du faux prophète. Et maintenant, nous allons rentrer dans le chapitre 14. Et là, eh bien, nous allons découvrir, en préambule, je voudrais vous donner quand même un peu la trame, l'agneau et ses rachetés. Il sera question également des jugements divins, de l'évangile éternel. On va voir ce que c'est quand il est parlé de l'évangile éternel, de la chute de Babylone en perspective, parce que ça viendra un peu plus tard, au chapitre 17 et 18, mais déjà il est question, il en est fait allusion, du châtiment des adorateurs de la bête, de la moisson et de la vendange, et nous poursuivrons brièvement à travers le chapitre 15, où nous allons découvrir la vision que l'apôtre Jean a des sept dernières plaies. On en parlera. Des vainqueurs, qui sont les vainqueurs de la bête ? Et la préparation des coupes de la colère de Dieu qui va être développée la fois prochaine, c'est-à-dire au mois d'octobre. Et là, nous serons vraiment au cœur de ce combat cosmique dans l'invisible, sur la terre. Alors c'est là où justement peut-être l'Apocalypse est le plus effrayant ou le plus redoutable. Mais celui qui à la fois n'a rien à craindre. Parce qu'il est mis de côté, il est mis à l'écart et il n'a rien à craindre. Mais néanmoins, pour les rebelles, les réfractaires, ceux qui, manifestement ne veulent pas de la vérité et rejettent Dieu et sa grâce, alors ça sera autre chose. Il est question dans un premier temps de l'agneau et de l'armée de ses rachetés. Je lis le verset premier du chapitre 14. On va prendre les choses comme cela au fur et à mesure. Jean dit, « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Le lieu de la vision n'est autre que la montagne de Sion. Quel autre lieu porte ce nom ? Il n'y a que Jérusalem. C'est-à-dire que, c'est véritablement là un endroit, nous pourrions dire, stratégique, la montagne de Sion. On a bien compris, il s'agit de Jérusalem. Et là, c'est l'apparition de ce que nous allons découvrir. Alors que nous avons vu la fois dernière que le diable règne encore pour peu de temps sur la mer, c'est-à-dire les nations, sur la terre également, on se souvient de la connotation qu'il y a avec Israël, tous les hommes, contrairement à ce que nous pourrions penser en lisant toutes les abominations de l'iniquité qui se répand sur la terre à ce moment-là, tous les hommes n'ont pas fléchi le genou devant la bête. Comme Élie, qui va apprendre à un moment donné, alors qu'il dit à Dieu, « Mais moi, je suis resté moi seul. » Te craignant, te servant, t'adorant, te priant, Dieu lui dira, « Tu ne vois pas tout. » Parce que je voudrais te dire que tu n'es pas seul en Israël, il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et nous voyons que, malgré, nous pourrions dire, la densité de ténèbres, d'iniquité, de péché, de mal qui va régner sur la terre, il y aura des gens qui seront encore les adorateurs de Dieu. Ils sont dénombrés, nous dit le texte, à 144 000. Je voudrais vous le dire tout de suite, parce que certains ont interprété, vous en avez peut-être entendu parler dans certains mouvements religieux, 144 000. On en avait déjà parlé au préalable quand on avait ouvert un autre texte. C'est un chiffre symbolique, parce que s'il n'y en avait que 144 000 sur les temps, sur les siècles, sur les générations qui étaient sauvées, je peux vous dire que la porte est étroite. Hein. Ça serait vraiment le grand rétrécissement. Je tiens à le dire, c'est un chiffre symbolique. Dans le sens où ceux-là ont compris la valeur de leur salut et en portent le sceau sur leur front. On l'a lu il y a un instant. Ils portent le nom du Père et du Fils rédempteur. Ils sont marqués. Ils ont là, eh bien, en effet, nous pourrions dire, une estampille divine. Et ce sont les vrais fils et filles de Dieu qui sont passés par la repentance, qui sont passés par la conversion à Jésus-Christ et qui sont passés également par une nouvelle naissance, c'est-à-dire une transformation intérieure. À remarquer, les rachetés au nombre de 144 000, je rappelle ce chiffre symbolique, reçoivent un sceau, alors que les rebelles reçoivent une marque. Vous avez fait peut-être la distinction ? Ils reçoivent une marque, non pas de Dieu, mais ils reçoivent une marque de la bête sur le front et sur la main. On continue. J'entendis, nous dit Jean, du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de la harpe. Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Les choses arrivent soudainement. Le ciel fait entendre une voix à un moment donné, qui est un bruit mi-tonnerre, mi-harmonie aux sonorités de la harpe. C'est quelque chose d'extraordinaire, une harpe. Ça a un son cristallin. C'est quelque chose de très mélodieux et de très beau, apaisant, très doux. Et il y a ce contraste. On sait ce que c'est que le tonnerre, quand il éclate. C'est bouleversant, ça peut être terrorisant, mais la harpe, alors il y a les deux. Et cela nous est donné parce que c'est un contraste saisissant de majesté et de puissance mêlé à la douceur subtile, annonçant une chose. C'est ce que, en quelque sorte, le titre de notre étude ce soir, annonçant que la moisson est imminente. Voilà. Il y a à la fois un bruit terrifiant, et il y a à côté de cela un bruit qui apaise. Il y a les deux. Et il doit y avoir les deux, peut-être certainement pour une bonne raison, que ça s'adresse à deux mondes différents. On l'a dit. Il y a ceux qui ont la marque, le tonnerre, et il y a ceux qui ont le sceau, certainement la mélodie. Ça semble redoutable, ce bruit qui surgit à ce moment-là, mais cependant, quand les rachetés, les 144 000, l'entendent, eh bien le cœur des rachetés vont entonner à ce moment-là un cantique nouveau. Quand je dis nouveau, c'est peut-être pas celui ou ceux que nous chantons habituellement, un cantique que finalement on n'a jamais entendu. Un cantique céleste. Et nous allons voir quelle est la caractéristique de ces êtres qui sont là, de ceux qui, dont il est parlé, au verset suivant, au verset 4, où il est dit ceci, « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. » Alors, attendez un instant que je vous explique. Parce que si nous prenons les choses à la lettre, c'est difficile. Mais il y a toujours un sens spirituel. Il y a toujours, en quelque sorte, un écho dans un monde qui n'est pas seulement le monde de la terre. Alors on va essayer de comprendre cela, parce que certains ont tellement restreint la signification et le sens, l'interprétation, que là on risque d'aller devant un mur, et au lieu d'apaiser, au lieu de faire chanter le cantique nouveau, je pense que ça peut faire le contraire. Vous avez remarqué avec moi, il nous a dit qu'ils sont vierges. Je précise. Et beaucoup de commentateurs sont d'accord avec cette interprétation. En aucun cas, on ne doit et on ne peut y voir une justification du célibat et sa supériorité sur le mariage. Parce qu'on a dit, et certains en ont fait une doctrine quasi universelle dans certaines religions. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisque la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin, jusqu'aux premières paroles dans le jardin d'Éden, encourage et bénit l'union de l'homme et de la femme. Alors, il faut chercher ailleurs. À nouveau, ce verset a une valeur symbolique dont le sens est évident. Et on l'a lu. Il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, il faut voir les choses comme Dieu les voit. J'ai dit sens évident. Le cœur de ceux-ci est vierge et n'appartient qu'à Dieu, par leur choix et leur détermination de donner et d'avoir donné leur vie au Seigneur. Ils sont mis à part, ils sont ce que l'on appelle dans le langage biblique sanctifiés, mis à part. Le verset 5 nous le précise, et dans leur bouche, et je le relis, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Je le répète. Selon Éphésiens chapitre 5, et je lis ce texte, cela peut nous éclairer, et on va comprendre pourquoi et comment ils sont irréprochables. Pas seulement pourquoi, mais comment. Écoutez, verset 25, je lis ceci. « Comme Christ a aimé l'Église, ce sont ceux-là, l'Église, nous sommes, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, et la parole c'est ce qui nous donne la foi en Christ, la foi dans notre salut, la foi dans ce sacrifice qui nous sauve aujourd'hui, et pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Et là, nous avons un des plus beaux textes de la Bible qui nous montre l'union de Christ avec son église. Et une mariée. J'en ai vu une encore samedi dernier. Je peux vous dire, elle a une robe. En principe, elle n'a pas de tache dessus. Hein. On a fait attention à lui donner une robe qui soit très propre. Eh bien, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Dieu. Et c'est l'image, finalement, de la sanctification. Or, la souillure dont il est question est l'infidélité et l'adultère, et j'ajoute, spirituel. Et vous savez que Dieu s'est toujours battu dans l'Ancien Testament avec Israël et Israël avec Dieu. Les prophètes de l'Ancienne Alliance ont été, dès le matin, pour dire « Mais attendez, pourquoi allez-vous vers les idoles ?» Pourquoi allez-vous adorer sous les arbres verts? Pourquoi faire ceci et cela alors que Dieu dit dans les 10 commandements le premier « Mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et ça s'appelle de l'adultère spirituel. C'est pour ça que ces hommes dont il est question, ceux dont il est question, 54 000 mais avec un chiffre hein, qui dépasse, eh bien ce sont des gens qui ne se prêtent pas à l'idolâtrie. Qui ne se prêtent pas à toutes ces choses et qui se mettent en communion, non pas avec Dieu, mais avec des puissances mauvaises. Ça, c'est de l'idolâtrie spirituelle. Donc, il est bien question de le comprendre dans ce sens. Ils peuvent ainsi, en toute vérité, parce qu'ils chantent un cantique nouveau, célébrer l'approche du juste jugement divin et pour chanter le cantique nouveau. Et pour chanter le cantique nouveau, eh bien, il faut avoir des lèvres pures, des lèvres purifiées par la foi. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs le prophète Ésaïe lorsque, et vous connaissez ce texte, hein, c'est un texte clé, nous pourrions dire, quand il nous est dit ceci, et c'est le prophète qui ressent cela, écoutez, vous allez reconnaître. « Alors je dis, malheur à moi, dit le prophète, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Voilà. Ça, c'est la purification. C'est l'œuvre de Dieu. Et tous ceux qui sont passés par cette expérience, que l'on appelle, et je le rappelle à dessein, tout simplement au contact de la parole de Dieu, qui ont mis leur foi dans la parole de Dieu, qui ont pris conscience de leur culpabilité, de leur perdition, se sont repentis, convertis à Jésus-Christ, ont accepté Jésus, et qui maintenant, dès lors, eh bien, vivent une vie nouvelle. Leur lèvre a été purifiée. Alors derrière les lèvres, naturellement, il y a le cœur, et puis il y a toute la vie, naturellement. Nous en arrivons au verset 6, c'est un autre paragraphe. Il est dit ceci, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Qu'est-ce que cela veut dire? La scène change tout à nouveau. Jean l'apôtre voit trois anges. On les appelle communément les anges qui annoncent la fin. F-I-N, la fin. Et nous voyons qu'ils ont une mission particulière, ils se succèdent l'un après l'autre. Le premier est porteur, nous l'avons lu, de l'évangile éternel. Alors on va avoir des surprises avec ce mot, cette expression. Son message est un vibrant avertissement. Nous connaissons l'évangile, celui que nous prêchons, celui que vous avez entendu et qui vous a sauvé, qui vous sauve. Pour l'avoir entendu et cru surtout. C'est une bonne nouvelle. Mais là, il est question de quelque chose, puisque c'est un avertissement, il appelle tous les hommes, on l'a lu, hein, à la crainte du Dieu créateur, et enfin amener les hommes, en entendant cet évangile éternel, à rendre gloire au Seigneur du ciel et de la terre, au souverain de toute l'immensité de la création. Parce que c'est l'heure fatidique. Et bientôt, eh bien les choses vont prendre d'autres proportions et le cours de l'histoire va rentrer dans une autre dimension. Et là, c'est encore un dernier appel à travers l'évangile éternel qui est porté par cet ange. On continue. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » C'est un évangile, je le rappelle. Mais il ne contient aucune promesse de grâce. Autant l'évangile que nous avons entendu s'appelle la bonne nouvelle en grec, dans son étymologie, c'est bonne nouvelle, évangile, bonne nouvelle. Mais là, on pourrait dire que c'est en quelque sorte une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle par le fait même que c'est quelque chose de redoutable pour les rebelles, pour les réfractaires, pour les moqueurs qui tournent en dérision le jugement divin qui vient et qui se dit « mais de toute façon, il n'y a pas de Dieu. Le ciel n'existe pas, l'enfer n'existe pas, il n'y aura jamais de jugement. » Tout ça, ce sont des inventions. Ils sont donc, finalement, eh bien, moqueurs. Pour tous les blasphémateurs des réalités invisibles, comme le livre de Jude nous dit qu'ils injurient les gloires. Vous connaissez le texte dans le livre de Jude, tout petit livre de la Bible. Qu'ils osent affronter les gloires, tout ce qui est glorieux, tout ce qui est divin, et de mépriser tout cela. Alors c'est un évangile éternel, c'est sûr, ça ne change pas, mais pour eux c'est quelque chose de terrible. En d'autres termes, tous ceux qui ont fait de la terre leur unique patrie, et de la mer tout le système des civilisations, des nations, des politiques, leur seul horizon. C'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes du ciel, aucune perspective du ciel, mais ils vivent sur la terre en disant « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Puis après, il n'y a plus rien du tout. C'est le matérialisme. C'est l'absence totale et complète, finalement, de l'espérance. L'athéisme, si vous voulez. Dans la révolte, dans la rébellion contre Dieu. Jusqu'à, nous dit le texte, jusqu'à idolâtrer les sources d'eau. C'est intéressant de nous arrêter sur cette expression. Alors, ce n'est pas le ruisseau qui passe par-ci, par-là, c'est autre chose. Jusqu'à faire des sources d'eau, eh bien, une idole. À cause, par la soif de leur égoïsme, d'orgueil et de puissance. Vous savez, si l'on analyse un petit peu le comportement de notre temps, comme ça a été dans tous les temps, on s'aperçoit que l'orgueil, l'égoïsme, et puis la puissance, la gloire humaine a toujours été le moteur de tout, et ça finit toujours en destruction, en guerre, et des choses épouvantables. Mais on s'aperçoit qu'ils ont tellement idolâtré ces sources-là, ce que je viens de citer, c'est-à-dire qui ramène l'homme à lui-même et qui fait qu'il pense qu'il est Dieu et qu'il n'a pas besoin de Dieu, c'est une source trompeuse, c'est une source amère, c'est une source aux eaux marâtres, et qui fait que, à ce moment-là, eh bien, les hommes viennent, ils retournent encore, sans étancher leur soif. Et ils ont toujours soif. C'est un peu l'image de la Samaritaine jusqu'au jour où elle a rencontré Jésus, et qu'elle a trouvé que, non seulement il y avait une source, il y avait des sources en bas, mais il y avait une source en haut, hein. Et Jésus lui a dit, mais tu sais, cette source-là, elle jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est à peu près ce que nous pouvons comprendre de cela, hein, en tous les cas. L'homme qui est fou, a tout gâché par le péché, par son péché, par sa folie, lequel entraîne tout simplement une suite, ou à sa suite la malédiction, et c'est une juste rétribution, parce que bientôt Dieu va remettre les choses en ordre, et ça sera fait promptement, et ça sera fait pour toujours, l'ordre sera rétabli. Après le désordre de ce monde, eh bien viendra l'ordre, ce qui nous amène au verset 8. Second. Un second ange suivit en disant « elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche ». Je vous ai dit qu'on verra dans le détail un peu plus tard, vers le mois de décembre, la chute de Babylone. On en reparlera. Mais il est quand même fait allusion, eh bien là, en perspective que les choses, eh bien là, sont arrêtées pour Dieu. Alors Babylone, on s'expliquera sur ce que c'est que Babylone. Babylone, c'est pas la ville d'Irak aujourd'hui, enfin la ville anciennement hein, de l'empire babylonien, mais il y a quelque part quelque chose qui est très bien marqué et significatif. On a lu ensemble que le second ange confirme la chute de Babylone. Il est là pour le dire. Et cette Babylone est appelée la grande prostituée. C'est pas un titre très flatteur. Et cette chute future, vous le remarquez, est déjà annoncée au passé, parce que pour Dieu, c'est déjà fait. Dieu n'attend pas les événements pour faire les choses. Dieu est déjà de toute éternité dans la prévision de ce qu'il va faire, et l'homme est au milieu quelque part, et bien il va, par sa folie ou par sa sagesse, accomplir la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre, en bien ou en mal. Mais une chose qui est certaine, c'est que vous remarquerez avec moi, il nous est dit, mais elle est tombée. Même elle n'est pas tombée encore, mais c'est comme si elle était tombée. Parce que pour Dieu, c'est déjà fait. Et vous savez, on n'arrêtera pas le cours de l'histoire et le cours des choses. Hein. Il y a des choses qui appartiennent à notre temps, à notre société, à notre civilisation, mais c'est déjà inscrit. Hein. Alors vous allez me dire, mais c'est du fatalisme. C'est pas du fatalisme. Non, c'est la Bible qui nous annonce les choses. Et elle lève un peu le coin du voile sur ce que nous pouvons nous attendre et surtout... Ce n'est pas fait pour nous effrayer, c'est fait pour nous préparer, comme le dit Jésus très souvent, soyez vigilants, soyez prêts, parce que le jour arrive d'une manière ou d'une autre. Et Babylone, c'est l'image de la femme qui est assise sur la bête, cette femme qui a atteint, si on peut l'expliquer de cette manière, le dernier degré de déchéance. Alors ça peut donner une idée de ce que peut être la déchéance, mais ça c'est le dernier degré de déchéance dans le mal. Elle typifie d'une manière particulière l'Église mondanisée, l'Église apostate, l'Église qui n'a plus que les apparences. Il y a deux églises. Il y a une Église visible qui se montre triomphante, un empire qui domine la conscience des hommes. Avec des fausses doctrines, ou des doctrines trafiquées, dénaturées, déformées. Et puis il y a l'Église invisible, qui elle, eh bien, est cachée. Et elle est cachée en Christ. Elle est cachée pour conserver et garder sa parole pour la vivre. Et il n'y a pas besoin de démonstration, sinon un témoignage à rendre autour de nous. Et ce témoignage, eh bien, il peut être lu dans les vies des chrétiens, d'une manière toute simple. Alors il est question de la condamnation dans la grande prostituée de l'Église mondanisée. Et si vous voulez un exemple, relisez l'histoire de la lettre qui est écrite à l'Église de Laodicée, qui dit « Moi, je crois en Dieu, Moi, je suis forte. Moi, je vois clair. Moi, je suis riche. Moi, je suis ceci. Moi, je suis cela. Une église opulente, une église écrasante, une église qui séduit le monde entier. Et Dieu lui dit, dis donc, tu dis que tu es aveugle ? Tu dis que tu vois clair ? Mais moi, je te dis que tu es aveugle. Tu dis que tu es riche, mais tu es pauvre intérieurement. Tu n'as plus rien du tout, tu n'as plus aucune substance spirituelle. Tu dis que tu es vivante, mais tu es morte. C'est ça, justement, ce qui est mis en cause. Et un autre, un troisième ange, les suivit et, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Alors ça, c'est quelque chose aussi qui vraiment effraie les gens quand ils disent ça, parce que c'est terrible. Je parlerai de crime et châtiment de l'idolâtrie, parce que c'est ça ce qui est mis en évidence. Vous savez que Dieu a pardonné souvent à Israël. Ses folies, ses bêtises, ses sottises et toutes sortes de choses. Mais il y a une chose qui a toujours amené d'une manière particulière le jugement de Dieu, c'était l'idolâtrie. L'adoration des idoles, l'adoration des faux dieux. Qu'est-ce que ça peut avoir comme caractéristique? Qu'est-ce que ça peut avoir comme correspondance pour nous aujourd'hui? Alors peut-être on se représente l'idolâtrie religieuse avec des statues, avec toutes sortes de choses, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Hein. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que l'idolâtrie, elle est partout. Moi, vous savez, si vous permettez, la plus grande de toutes les idolâtries aujourd'hui, qui fait plier, qui fait fléchir le genou des hommes jusqu'à les faire rouler par terre, à leur faire faire les crimes, les guerres et tout ça, c'est l'amour de l'argent. Alors ça, Jésus l'a dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Il l'a appelé Mammon. Et Paul va enchérir la pensée de Jésus quand il écrira dans Timothée en disant que c'est la racine, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est une idolâtrie. Que nous ayons ce qu'il faut pour vivre, bénissons le Seigneur. Mais de là à commettre ce qui se commet, j'ai reçu un petit fascicule, un document aujourd'hui qui émane finalement d'un organisme chrétien, de l'appauvrissement des pauvres dans le monde en raison de la corruption des grands, des puissants, des industriels et tout ça, qui privent des millions et des millions de gens pour s'enrichir eux-mêmes au détriment de tous ceux qui tendent la main pour avoir un peu de riz. C'est terrible une chose pareille. L'amour de l'argent, racine de tous les maux. Terrible. Alors, crime et châtiment de l'idolâtrie. Si quelqu'un adore, avons-nous lu, il boira aussi la coupe et il sera tourmenté. C'est le troisième ange qui le proclame. Prédiction du sort épouvantable des hommes qui ont été séduits et soumis, lesquels se sont grisés, comprenez le mot, hein, se sont grisés, se sont enivrés de leur idole qui est la bête. Et la bête, c'est un système, on l'avait vu déjà auparavant, qui offre aux hommes tout sauf Dieu, qui offre tout en contrefaçon de la vérité de Dieu, de l'amour et tout ce que vous voulez. Et les hommes ont véritablement cette propension davantage à croire au mensonge, de croire à la vérité. Ça, c'est venu il y a très très longtemps dans le jardin d'Éden, hein, et les choses ont été complètement inversées. On dit, c'est la vérité, ils vont penser que c'est mensonge. Vous leur présentez le mensonge, ils vont dire non, c'est la vérité. Ils ont préféré le mal au bien. L'injustice à la justice. Et nous voyons que ils en sont arrivés, ces hommes. Pour arriver à cette condamnation, ils en sont arrivés à en perdre la raison. Et la raison, vous savez, perdre la raison, qu'est-ce que c'est? C'est d'ivresse. Quand un homme est ivre, il ne sait plus ce qu'il fait, il ne sait plus où il va, il ne sait plus ce qu'il raconte, il ne sait plus où il en est rendu. Hein. Eh bien, l'idolâtrie, c'est ça. On le voit. Les hommes deviennent fous à ce moment-là. Alors, il est juste, selon le jugement de Dieu, qu'ils boivent tout simplement le vin de la colère. Et il nous est dit que, dans ce passage, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant qui? Les anges et devant l'agneau. Ce qui montre bien que la vue des saints anges de Dieu et de l'agneau sera pour ces hommes révoltés en rébellion, ivres et complètement qui ont perdu la raison et la tête, eh bien cette vision, parce qu'ils le verront aussi ça dans le ciel, ces saints anges et devant l'agneau, sera pour eux un perpétuel tourment fait de remords, de regrets, sans apaisement aucun. Jésus le dit, hein, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je vous ai invité aux noces de l'agneau. Je vous ai invité au festin. Vous avez dédaigné, vous avez rejeté l'invitation, vous avez méprisé, vous vous êtes moqué. Vous avez outragé celui qui vous invitait. Alors à ce moment-là, eh bien, quand vous verrez les autres rentrer, vous serez laissé pour compte. Et puis, c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui nous amène au verset 11. « Et la fumée de leurs tourments monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Je vais encore un peu plus loin. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. » Merci Seigneur de ce qu'il y ait ces petits paragraphes, parce qu'on commence à suffoquer. C'est bien fait, hein? On a commencé par les 144 000, qui étaient vraiment la vision de ceux qui, dans leur caractère même, eh bien, sont les hommes qui ont choisi Dieu, et Dieu les a choisis, les a pris, ce sont les élus. Et puis là, on a passé un désert de feu, de soufre. Je ne sais pas si j'aurais résisté à vous parler pendant des heures et des heures sur ces tourments, parce que c'est terrible. Mais là, il y a quelque chose qui est formidable. C'est le son du tonnerre et de la harpe. Et là, maintenant, nous allons venir. Nous avons commencé par la harpe, il y avait le tonnerre. Et maintenant, nous allons terminer ce chapitre, ou presque, avec eh bien, les sons de la harpe. Voici au milieu du feu infernal dont nous venons de parler, une belle exhortation suivie d'une promesse. Qui a pour thème cette promesse? La persévérance à garder la foi jusqu'au bout. Et cette promesse est à l'adresse des fidèles qui meurent, ou qui mourront, ou de ceux qui sont morts. De ceux qui meurent, particulièrement une catégorie de ceux qui meurent, les martyrs. Il y a eu dans tous les temps des martyrs pour la foi. Et Dieu sait si notre vieille Europe a payé le prix. Hein. Depuis les persécutions de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui, parce que l'Église persécutée, c'est encore là. Et sans vous dire, parce qu'on ne peut pas savoir, mais sans vous dire ce que ça va être dans les derniers temps. Hein. Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir un retournement de situation et l'Église va être épouvantable pour le diable. Parce qu'il vient, il a peu de temps, mais il nous a dit qu'il viendra avec une grande rage. Mais il ne s'en prendra pas aux hommes qui le suivent, il s'en prendra à ceux qui diront « Mais attendez !» Hein? Dieu vient, Jésus revient bientôt. Alors ça sera une autre affaire. Et il nous est donné un encouragement, ceux qui meurent dans le Seigneur. Alors nous pouvons partir en paix. Nous pouvons nous reposer dans la paix en Dieu. Parce que les choses nous sont dites. Quelle différence avec les précédents qui sont tourmentés. Ici, ils se reposent. Les autres sont tourmentés à la vue des saints anges et de l'agneau. Mais là, il s'agit de repos. Et ils sont heureux. C'est en quelque sorte une sorte de récompense de l'endurance et finalement de la patience des chrétiens, des saints, puisqu'il nous est dit, eh bien, leurs travaux et leurs œuvres, notre foi, les fruits de notre vie avec Christ, et puis ce qui en découle, c'est-à-dire des hommes, les élus, l'Église sanctifiée, affirmée et certifiée par le Saint-Esprit. On l'a lu il y a un instant, il nous est dit que c'est le Saint-Esprit qui manifeste eh bien, cette parole. « Oui, dit l'Esprit », un peu plus loin, au verset 13. « Oui, dit l'Esprit ». Ce n'est pas une affirmation humaine pour faire plaisir, de dire « Vous savez, vous ne tranquillisez pas, hein, ne vous souciez pas, hein, moi je vous dis que c'est bien, c'est comme ça ». Ce n'est pas une parole d'homme, c'est l'Esprit qui vient sanctionner finalement cette promesse en disant « Mais persévérez, allez jusqu'au bout, soyez inébranlables parce que finalement votre œuvre et vos œuvres eh bien, ne seront pas vaines dans le Seigneur ». Dixit, 1 Corinthiens, chapitre 15. Vous connaissez, hein? Et nous assistons maintenant à la double récolte du jugement dernier. Et je passe au chapitre 14. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre fut moissonnée. Il s'agit de la moisson. On n'a peut-être qu'une vague idée maintenant de ce que peut être la moisson, nous qui vivons et qui sommes des citadins, mais ça nous donne quand même une petite idée. Il nous est parlé d'une nuée blanche, qui est l'emblème de la sainteté. Il y a quelqu'un qui est assis, nous dit le texte. C'est une position de solennité et de sérénité. Sur le prononcé du jugement, il n'y a pas d'affolement. Les choses vont se dire, les choses vont se faire. Il y a une couronne d'or qui est l'emblème du pouvoir royal et suprême, devant lequel toute créature s'incline. Il y a une faucille tranchante qui témoigne qu'il faut couper, qu'il faut séparer de la terre, qu'il faut sectionner à la racine. En d'autres termes, le bien comme le mal sont mûrs pour le grand tri ou le grand triage. Ça ne vous rappelle pas une parabole de Jésus, vous savez, dans le contexte du semeur, oui, où le pêcheur, par exemple, fait le tri entre les poissons qui sont bons et les poissons qui sont mauvais dans le filet, et puis bien des choses comme ça. Parce que finalement, ce qui est écrit dans l'Apocalypse, Jésus nous l'a déjà dit, hein, d'une façon ou d'une autre, soit à travers des paraboles ou des enseignements formels, d'une manière ou d'une autre. Aucun doute. Le divin moissonneur, c'est Jésus, celui dont il est parlé. Et il nous est même dit dans l'Évangile, il amassera son blé dans son grenier. Donc il y aura une partie qui ira, qui sera amassée, qui sera conservée. Et vous devinez, les élus sont rassemblés. Alors, si on peut dire que le ciel, c'est un grenier, hein, en haut. Donc, sont rassemblés dans les cieux auprès de lui. Qu'est-ce que nous dit le prophète Joël par rapport à cela ? Le prophète Joël nous en parle parce qu'il y a quand même des choses qui sont dites d'une manière assez évidente pour que nous puissions les comprendre. Joël nous dit au chapitre 3, verset 14 et jusqu'au verset 16, « C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, comme un lion, hein. De Jérusalem, il fait entendre sa voix, les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge. » Écoutez, ça c'est la consolation. « Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. » Ouais. Je dis et je répète, pour ceux qui entendent ça, et pour ceux qui l'entendront, celui qui croit n'a rien à craindre. Je ne sais pas si ça suffit, mais la foi suffit pour ne pas craindre. Les uns à droite, les autres à gauche. Ça ne vous rappelle pas la parabole des boucs et des brebis ? Matthieu chapitre 25, si ma mémoire est fidèle. Hein, vous relirez. C'est ce qui est en train de se passer dans le livre de l'Apocalypse qui nous est présenté. L'image suivante, c'est celle de la vendange. Et on va le lire. Au verset, on continue. Au verset 17 à 18, un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille, tranchante, et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs, car les raisins de la terre sont mûrs. Je m'arrêtais là. Il y a là quelque chose de tout à fait significatif. C'est le même descriptif, la scène se répète, mais avec des nuances d'importance que je voudrais souligner à votre attention. Mais cette fois, il s'agit d'êtres qui sont entièrement réfractaires à toute influence purificatrice. Il n'y a rien à faire. Et vous allez voir pourquoi. La vigne représente la foule des hommes méchants et chaque grappe un incroyant ou un incrédule. Alors que les raisins de la terre sont à point, un rapprochement donc nous amène à dire que la vigne dans l'Ancien Testament, c'est le symbole d'Israël. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, il nous est dit « Dieu planta une vigne et il lui apportait tous les soins, mais elle n'a pas produit les fruits finalement qu'il escomptait. » Et de là comprendre que la moisson intéresse les nations et que la vendange, particulièrement, sans finalement serrer trop le texte, le peuple d'Israël. D'une manière ou d'une autre, quoi qu'il en soit, le verset 19 nous l'apprend, et l'ange jeta sa faucille sur la terre. La terre, c'est toujours l'emblème d'Israël, hein, autant la mer, c'est les nations. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans une grande cuve de la colère de Dieu. Les uns ou les autres, païens ou juifs, réfractaires, inconvertis de cœur. Le tri parfait s'effectue ou s'effectuera. Et je voudrais faire une remarque au passage, c'est que les raisins ne sont pas conservés comme le froment. Vous avez remarqué tout à l'heure, le froment, il était monté dans le grenier. Il est conservé. Alors que les raisins, eh bien là, sont eux jetés dans la cuve de la colère de Dieu et hors de la ville, hors de Jérusalem, hors d'Israël. Alors, tout ça, je passe assez vite, hein, mais il y a tellement de choses à dire. Mais toujours est-il que ça nous donne un petit peu une idée, finalement, eh bien, de ce que l'explication de ce texte qui, quelquefois, lorsqu'on le lit, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire, hein ? Il faut s'y reprendre à plusieurs fois et c'est pas évident. Je continue toujours. La cuve fut foulée hors de la ville, donc je l'ai dit, et du sang sortit de la cuve jusqu'au meur des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Alors c'est là où beaucoup de gens disent, je ferme la Bible, c'est impossible à comprendre. Ou c'est tellement terrible. Eh oui. Alors il faut bien dire que c'est écrit à la manière orientale. Hein. Et il y a une signification. Je voudrais donner une petite explication quant au torrent de sang qui en découle. C'est une vision épouvantable, une vision effroyable, dont la comparaison peut être comprise dans le fait jusqu'aux morts des chevaux. Vous voyez, vous rendez compte? C'est pire que Verdun et Stalingrad et tout ce que vous voudrez. Hein. Mais on va peut-être découvrir quelque chose tout à l'heure. Jusqu'aux morts des chevaux. Alors pourquoi le mort des chevaux? Vous savez, le frein que l'on met dans la bouche des chevaux. Hein. Le morse, comme vous voulez, marque la soumission au conducteur de l'attelage. Si ça a été fait pour ça, ça a été inventé dans ce sens pour qu'on puisse diriger le cheval de droite et de gauche. Et son contraire, qui est l'indiscipline, qui est la désobéissance ou la rébellion, tel le caractère de cette humanité révoltée, sans frein, qui s'oppose à son Créateur, qu'est-ce que l'on peut faire ? Qu'est-ce que Dieu peut faire puisqu'il leur a donné Jésus, il leur a donné l'Évangile, il leur a donné tout, il leur a marqué par la grâce infinie, par son amour, mais ils n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils aiment plutôt la haine, parce qu'ils aiment plutôt le mensonge, parce qu'ils aiment le mal, l'injustice, plus que ce que Dieu leur propose. Qu'est-ce que l'on peut faire? Alors ce sont des images très fortes, des images épouvantables, des images qui vont, j'espère, ne vont pas vous empêcher de dormir cette nuit. Mais c'est pour montrer qu'il y a là, derrière tout cela, eh bien, quelque chose d'impossibilité. Si l'homme n'ouvre pas son cœur, mais qu'est-ce que peut faire Dieu? Dieu est capable de programmer la marche des étoiles, mais il ne peut pas avoir la maîtrise sur le cœur humain quand un homme a dit non. C'est ça, l'image est forte, c'est pour en comparaison de cette méchanceté qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il n'y a rien à faire. Alors c'est pour ça que les images sont aussi fortes que le cœur est méchant. Mais vous savez, quand on voit les atrocités des hommes d'aujourd'hui et d'hier, vous savez, ils sont capables. Hein. Ils sont capables de tout. Hein. C'est épouvantable. Alors n'allons pas jeter le blâme sur Dieu, mais regardons ce que les hommes sont capables. Ainsi donc, la trinité diabolique dont nous avions parlé au chapitre 13 va finalement hâter la maturation de la moisson et de la vendange et, quelque part, cette trinité diabolique prépare non seulement le jugement divin, mais la venue du royaume de Dieu sur la terre. Et je vous dirai, comme l'apôtre Paul dit, le diable fait une œuvre qui le trompe. Parce que son but, c'est de perdre des hommes. Et Dieu, son but, c'est de les sauver. Mais comme l'homme ne veut pas sauver, eh bien, ils vont être mis entre les mains du diable, qui, lui, va véritablement monter dans la cuve de cette colère et faire en sorte que, ce qu'on a lu, c'est terrible, c'est abominable. Vous savez, si les gens voulaient un instant croire à cette parole, ils se convertiraient. Hein. Mais la conversion par l'apport, est-ce que c'est vraiment la conversion? Puis je vais terminer. Il nous est dit que, j'ai du mal à le dire, hein, que cette étendue de sang jusqu'aux morts des chevaux, eh bien, c'est répandu sur 1600 stades. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce une bataille? Et beaucoup ont pensé à Hermageddon, dans la vallée de Jisréel. Vous avez pas entendu? On en reparlera quand on arrivera au chapitre 19 de l'Apocalypse. Ça va venir. Qui fait couler tant de sang? Est-ce que c'est une bataille? L'espace du carnage couvre, je le rappelle, 1600 stades, c'est-à-dire exactement la surface de la Palestine. C'est curieux ça, hein ? Parce que tout a commencé là et tout finira là. 1607, c'est exactement là. La configuration et l'espace, excepté Jérusalem. Je le dis, excepté Jérusalem. J'arrive au chapitre 15 et je finis. Le chapitre 15 est là, c'est la préparation de la colère de Dieu dont nous avons parlé. Il est parlé de la cuve de la colère de Dieu, cuve et coupe. Ce chapitre est un intermède visionnaire avant la lutte finale qui va se déployer à travers le versement des coupes. On avait parlé des sceaux, on avait parlé des trompettes, et maintenant la dernière étape, ce sont les coupes. Je le dis et je le lis. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » C'est-à-dire, en quelque sorte, le jugement. Il nous a dit que c'est grandiose et admirable. C'est terrible. « J'en vois dans le ciel une mer de verre incandescente, et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. » Il entend un sublime cantique, et nous allons le découvrir d'ici quelques instants, le cantique de Moïse, que vous pourrez relire quand vous aurez un petit moment dans Exode chapitre 15. Au moment où le peuple d'Israël va passer la mer Rouge et va se trouver, finalement, eh bien, sauvé par Dieu de la folie destructrice de Pharaon. Chapitre 15, lisez-le, Exode chapitre 15, marquez-le. Et il va y avoir également le cantique de l'agneau. Il y a le serviteur humain qui est Moïse et le serviteur divin, cantique de l'agneau, tout simplement. Et c'est un chant de délivrance et de victoire. Quand vous lisez le cantique de Moïse, c'est un chant, une explosion de victoire après 450 ans de servitude en Égypte. La mer céleste dont il est parlé symbolise la transparence du jugement divin. Et je continue à lire. Donc, il a vu une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image, etc., etc. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » On le chante d'ailleurs dans un petit cantique, je ne sais pas si vous en souvenez. « Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. » Qui ne te craindrait, Seigneur, qui ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. Dieu va enfin terminer son œuvre de jugement du mal et du monde, et le ciel est vibrant de triomphe et d'adoration. Et voici qu'il y a encore un autre événement qui va arriver. Le verset 5. Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les regards de Jean se portent sur sept anges qui tiennent sept fléaux contenus dans sept coupes. On le verra au verset 7 d'ici un instant. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin fin éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Le fin lin et les ceintures d'or sont l'image de la sainteté et ils illustrent que le jugement dernier sera conforme à la sainteté parfaite et divine parce qu'il n'y aura rien d'humain qui s'y mêlera. Nous, les hommes, on a toujours voulu faire la justice, mais c'est une justice humaine, une justice partiale, une justice parfois, souvent même injuste. Mais là, c'est pour nous dire que les choses, quand elles seront réglées de l'autre côté, personne n'aura rien à dire, tout genou fléchira, et toute bouche sera fermée. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Un des sept êtres vivants, vous savez, on en a parlé au début, c'est l'image de l'Église, l'Église glorieuse, l'Église glorifiée. Il y en a un. Probablement un parmi les quatre qui montre cette fraction de l'Église qui a souffert le plus, c'est-à-dire les martyrs de la foi, qui ont souffert le plus de la perfidie des hommes. Dieu leur donne leur revanche, en quelque sorte. Dieu n'est pas revanchard. Mais Dieu leur dit maintenant, vous avez souffert pour moi, vous avez souffert pour garder ma parole, vous avez donné votre vie. Eh bien maintenant, c'est vous qui avez à avoir l'insigne honneur de donner le feu vert aux anges de déverser les coupes. C'est terrible ce qui va se passer. il revient à celui-ci de donner aux anges l'exécution de la colère divine à travers les coupes. Les coupes d'or, cette fois, ne sont pas pleines de prières, mais elles sont pleines de colère. Tout simplement. Et je termine avec le verset 9, où il est dit ceci. Le temple fut rempli, verset 8, fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. À remarquer que le temple est rempli de cette fumée, et quand il y a fumée, il y a feu. Il n'y a pas de fumée sans feu, on le dit. Ce qui en interdit l'accès, on a vu que le temple a été ouvert pendant un moment, mais maintenant il va être fermé, à cause de cette intensité, finalement, de ce feu qui crée de la fumée, pour nous montrer que le temple va être fermé parce que le temps d'intercéder, on a souvent parlé du temple dans le ciel comme le lieu de rendez-vous entre l'homme et Dieu pour le pardon, pour obtenir la grâce et la miséricorde. Mais là, maintenant, le temps d'intercéder est désormais terminé, car rien n'arrêtera plus le cours de l'exécution. C'est ici la fin du temps de la grâce. Si vous voulez savoir où ça s'arrête, ça s'arrête au chapitre 15. Jusqu'ici, même à travers tout ce qui s'est passé auparavant, eh bien, celui qui criait encore vers Dieu pouvait obtenir miséricorde, mais maintenant, ça va être fini. Comme Jésus l'annonçait déjà, et je termine par ce verset, vous allez comprendre, au chapitre 13 et au verset, tout simplement, 25 à 28, quand il est dit ceci dans une parabole, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé et bu devant toi. Tu as enseigné dans nos rues ». Et il répondra « Je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. » Et ce que je disais tout à l'heure est confirmé, c'est là où il y aura des pleurs et des crincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi. Ils se mettront à table dans le royaume de Dieu et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Alors, que Dieu nous bénisse. J'espère que je ne vais pas troubler votre sommeil ce soir. Mais c'est quand même, avec cette modeste étude, c'est difficile. C'est difficile pour vous qui l'entendez, c'était difficile aussi pour moi de la préparer, parce que j'ai voulu être quand même à peu près, excusez-moi, avec la grâce que Dieu me donne et que Dieu m'a prêtée, je voudrais le dire humblement, c'est quand même dans la compilation et l'étude de beaucoup de versions, de beaucoup de commentateurs, pour essayer de trouver quelque chose qui puisse être accessible, compréhensible, cohérent, et surtout, de ne pas tomber dans le piège de l'étude de l'Apocalypse, des interprétations avec des spéculations. L'Écriture se répond par elle-même, et c'est ce que j'ai voulu faire, en trouvant finalement des versets bibliques, déjà, qui viennent étayer, eh bien, cette grande fresque de l'Apocalypse, et pour nous montrer que, quoi qu'il en soit, le Seigneur reste le maître et le souverain, et que les bons, ceux qui croient en lui, eh bien, seront rassemblés dans cette dimension de son royaume, et puis que tous ceux qui ne veulent pas, eh bien malheureusement, l'Apocalypse porte aussi un nom, qui est aussi celui du jugement de Dieu. Je ne prêche jamais sur le jugement de Dieu, mais là je suis obligé parce que je ne peux pas faire autrement, puisque c'est absolument finalement dans le texte. Mais toujours est-il, ça doit nous encourager pour nous à dire « Seigneur, vite, reviens bientôt, Seigneur, et donne-nous d'être prêts pour ton retour. » On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous savons que ce sont des choses difficiles. C'est vrai, mais néanmoins, Seigneur, croyons que parfois, au moins une fois dans notre vie, nous avons besoin de fouiller. Ce livre qui a souvent été refermé précipitamment par des hommes qui, en effet, Seigneur, ne pouvaient pas supporter que ce Dieu qui est avant tout un Dieu qui se présente comme un Dieu d'amour, un Dieu de justice, un Dieu de grâce, puisse à un moment donné, parce qu'il n'y a plus rien à faire, parce que tout a été épuisé, la grâce, l'amour, la main tendue, Seigneur, à cause de l'endurcissement du cœur, à cause de la méchanceté, où l'homme a préféré les ténèbres à la lumière. Seigneur, dans le nom de Jésus, Nous voulons te demander, Seigneur, et c'est notre prière en Église, c'est la prière de l'Église universelle, Seigneur Jésus, permets qu'il y ait encore, avant qu'il ne soit trop tard, des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants, des vieillards, et bien qui se tournent vers toi, et par-delà peut-être même la vision, Seigneur, de la révélation de l'Apocalypse, et bien qu'il y ait des hommes qui reviennent tout simplement à ton Évangile, et qu'ils puissent entendre ta voix, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et tu peux leur dire, mais je vous donnerai le salut, si vous croyez dans mon nom, dans mon sacrifice et dans ma grâce. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions de tout notre cœur. Amen.
Thank you.